Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. On va faire un témoignage de couple, du coup. Voilà. Je vais dire un mot, puis après je laisserai la parole à Stéphane. Voilà, donc on va rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie. Au travers de... Enfin, il a fait beaucoup de choses, mais on va prendre un exemple précis. Voilà. Nous sommes mariés depuis bientôt 21 ans, c'est au mois de décembre, c'est le trac. Voilà, depuis bientôt 21 ans, nous sommes mariés, nous avons 6 enfants et nous avons pris notre baptême ensemble il y a 15 ans à l'église de Tarbes. Et nous avons rejoint donc l'église de Toulouse-Ouest depuis le mois d'août, août-septembre. Voilà. Voilà. Et donc il y a 8 ans, en 2014, nous avons connu dans notre famille une guérison divine. Voilà, nous avons vu vraiment la main de Dieu agir sur un de nos enfants. Et on voulait partager ce témoignage avec vous ce soir parce que il y a la guérison, je l'ai dit, il y a la guérison de l'enfant, mais il y a eu beaucoup de choses autour. Et au travers de cette guérison, il y a eu énormément de bénédictions au sein de la famille, mais aussi dans l'entourage. Et nous avons vu vraiment la main de Dieu à cette occasion. Voilà. Je vais te laisser la main.
Donc en 2014, en fait, on a 6 enfants, mais c'est 5 grossesses parce que la dernière grossesse était gémellaire. Donc 2014, Victor, on ne savait pas pendant la grossesse que Victor allait être trisomique. On l'a su à 10 jours de vie. 10 jours de vie, il était déjà dans un état critique, dans un premier coma, parce qu'il est né avec, j'ai fait une césarienne en urgence, son cœur faiblissait, un petit poids, etc. Et à 10 jours, là, on nous annonce, il est trisomique. Donc déjà, c'est un choc, hein, un choc émotionnel, psychologique pour nous les parents, hein, pour ce qui est, même si on a le Seigneur, hein, voilà, il faut le vivre. Et puis, il y a eu cette petite période où quand il s'est réveillé à 10 jours, il fallait l'annoncer aux frères et sœurs quand même. L'aîné, donc Esteban, que vous connaissez, avait 12 ans. Et là, on se disait même, il faut l'annoncer, mais Stéphane ne voulait pas. Je lui dis, mais il faut, le gosse, de toute façon, il sera, dans 10 jours, il sera toujours trisomique, quoi. Donc, il faut l'annoncer. Et ça a été vraiment une catastrophe pour les enfants. Je pense que c'était le choc. Ils ne savaient pas trop non plus ce que c'était, hein, ce que c'était la trisomie chez eux. Ils ne savaient pas trop. Mais Esteban était très en colère, hein, de Dieu, hein, à l'époque. Donc c'était compliqué. Et pendant ces quelques jours, Victor est retombé. En fait, il a fait une septicémie. Il est retombé dans le coma à 18 jours de vie. Donc là, on l'a eu. Donc nous étions à Tarbes et on l'a eu hospitalisé sur Purpan pendant un mois et demi. Il est resté. Voilà. Et là, ça a travaillé le cœur des autres enfants. Ils étaient finalement, on le veut bien, quoi. Voilà. On faisait ce qu'on pouvait, hein, les allers-retours. Stéphane travaillait un petit peu déjà sur Toulouse. On faisait un jour chacun. Alors, on était serein. Je ne sais pas si on était serein, mais on faisait ce qu'on devait faire. Voilà. Moi, j'avais cette double casquette, double personnalité. Tu veux rajouter quelque chose ?
Ouais. Non, je voudrais dire un mot particulier. Il y a eu un moment particulier. Enfin, moi, je l'ai vécu. J'ai vécu de façon assez forte. C'est une nuit où on nous a appelé. Je sais pas, il devait être 2h ou 3h du matin. Victor était encore à un service de néonat à Tarbes. Et donc, il fallait qu'on vienne en urgence parce qu'il se passait quelque chose. Quand on est arrivé aux urgences, le médecin nous a dit, voilà, c'est une question de vie ou de mort. Il doit partir à Toulouse immédiatement parce qu'il a fait une septicémie. L'infection est en train de se généraliser. Donc, il doit partir d'urgence sur Toulouse. Voilà. Donc, bon, nous, on était vraiment... Oui, il est né avec beaucoup, c'est vrai, il faut le dire, hein, mais il est né avec beaucoup de malformations, beaucoup de difficultés respiratoires, enfin toutes les complications qu'on peut imaginer, comme ça pour un enfant trisomique, il pesait moins d'un kilo, donc le diagnostic d'ensemble était vraiment pas réjouissant. Et donc il est parti en urgence, comme ça, donc on nous a appelé au milieu de la nuit, il a fallu venir. Voilà, et donc on l'a vu partir avec cette ambulance. Il y a des choses parfois qu'on ne peut pas expliquer, et je crois que voilà, Dieu tellement grand et tellement bon, mais personnellement à ce moment-là je ressentis une paix et une sérénité, et je savais que mon enfant partait, mais je savais que le Seigneur était là. Il avait placé ça dans mon cœur et je pense que rien ne pouvait à ce moment-là m'enlever ça. Voilà, je sais qu'il y a des personnes dans notre entourage, notre famille, qui n'ont pas compris ça. Je pense qu'on ne peut pas le comprendre non plus si on n'a pas expérimenté vraiment la relation avec Dieu. Et moi, quand l'enfant est parti, vraiment, j'avais cette conviction dans mon cœur qu'il partait pour être guéri, pour être soigné, et qu'il reviendrait.
Et donc, quand on est arrivé sur Toulouse, qu'on faisait ces allers-retours, on était épuisés. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, c'est pas que j'y croyais plus, mais j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, on accepte cet enfant handicapé, on l'accepte. Mais par contre, si tu me le donnes, moi, tu me le guéris. Parce que c'est pas possible qu'on passe cette vie comme ça, ces allers-retours à l'hôpital. Je sais combien, bon, aujourd'hui, je parle que pour les trisomiques, je sais combien il y a des enfants qui se font opérer du cœur 3-4 fois. Les mamans passent des Noëls à l'hôpital. Moi, je dis, avec la fratrie qu'on a, je disais, Seigneur, moi, tu me le guéris, quoi. Et puis, on a pris cette décision. On a signé une dérogation. Il y a juste un médecin de Tarbes qui nous a suivis, qui l'a fait rentrer. Parce qu'au bout d'un mois et demi, on était fatigués de faire ces allers-retours. Et puis, voilà, on l'a vraiment remis au Seigneur. Et lorsqu'il est rentré, il n'était pas encore guéri. Enfin, on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, le Seigneur l'a guéri. Mais sur le coup du retour, on nous a appelés en néonat à Tarbes quand il est rentré. Monsieur Mandurgos venait en urgence. Là, par contre, j'ai pris la main de Stéphane et j'ai dit, le gosse, c'est fini, là. Je me suis dit, oh là là, on a fait une bêtise, on l'a fait rentrer, on a fait signer cette dérogation. Là, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur que on avait fait une grosse bêtise. Et en fait, ils étaient plusieurs médecins. Ils nous avaient mis les radios et tout, les échos sur les murs et ils nous disent, qu'il avait plus de problèmes respiratoires, plus de poumons, il avait un poumon plus grand que l'autre, le cœur, c'était pas la peine dans le cœur, et qu'il avait plus rien, et qu'en fait, il était que trisomique. Amen. Et donc voilà, et là, il est resté quand même bien 4 mois en néonat, on a fait des allers-retours à Tarbes, et on nous l'a donné petit à petit, on le rendait le soir, on ne l'avait qu'en journée, il fallait apprendre à lui donner le biberon, il faut pas croire que la trisomie, c'est que physique, en fait, parce que le palais n'est pas le même, la langue n'est pas la même, la peau, il y a plein de trucs qu'on découvre. Et petit à petit, c'est vrai que il est rentré, on a quand même eu la chance, le privilège de pouvoir partir 15 mois. Parce qu'il y a eu cette guérison divine, physique sur l'enfant, mais le Seigneur nous a bénis, nous, en tant que parents. Moi, je parle en tant que mère, c'était assez compliqué. On est quand même, le mari, c'est le toit de la maison, mais nous, on est quand même le pilier, les femmes. Et c'est vrai que ce cœur de maman que j'avais, de faire un deuil sur l'enfant que je n'avais pas et que je n'aurais jamais, vraiment, c'est le Seigneur. Bon, et moi, je sais que depuis 8 ans, je me suis fortifiée dans ça, vraiment, le Seigneur me relève chaque jour. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, on voit, bon, je ne vais pas vous raconter, j'en ai jusqu'à 10 heures, mais on voit encore la grâce de Dieu, quoi. On voit que c'est un enfant différent, bon, différent par la trisomie, mais même comparé par rapport aux autres trisomiques aujourd'hui, on voit que le Seigneur le bénit. On voit que vraiment, je dis chaque fois, bon, moi je témoigne à tout le monde, au CESAD, partout où il va, le gosse, à l'école, à la maîtresse, ils savent que... Il faut pas me dire, est-ce que Victor a des problèmes physiques? Oui, il a eu. Moi, je raconte. Moi, je suis comme ça, je raconte. J'aime parler, vous l'aurez remarqué. Mais je veux dire, le Seigneur nous bénit encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et même pour notre famille, ça nous a vraiment fortifiés. Et même, je veux dire, Esteban, mais nos autres enfants, ils sont différents parce qu'on est une famille différente, il faut dire ce qui est. Même si des fois, on aimerait passer un peu plus inaperçu, mais ça ne le fait pas par ses cris. Bon, mais voilà, on apprend à vivre avec et c'est une grâce de Dieu. Voilà. Donc, on était obligés de vous le partager.
Oui. Je voulais rajouter 2-3 choses. Donc, les bénédictions qu'il y a pu avoir autour pour la famille, on a 2 enfants qui se sont convertis par la suite. Quelques années après, mais il y a eu un cheminement aussi qui a été fait. C'est vrai aussi qu'on a eu dans ces moments-là, et c'est important aussi de se le partager, le soutien de l'église locale, parce que il y a eu énormément de moments de prière dans l'église, il y a eu un élan de prière aussi qui s'est fait autour de nos difficultés, parce qu'on le raconte comme ça, mais ça dans le temps, ça a été difficile à vivre. Donc on a vraiment aussi senti ce soutien et cet amour dans l'église. Et c'est vrai que l'église locale, c'est l'endroit où nous, en tant que chrétiens, on se ressource aussi, être avec les frères et sœurs, ressentir l'amour des frères et sœurs, passer du temps, louer le Seigneur ensemble. ce sont des moments qui nous fortifient et qui nous aident à passer aussi ces moments difficiles. Voilà. Et dire aussi qu'on a vu rencontrer pas mal de personnel médical. Enfin, on a eu des moments aussi où, je me souviens, on écoutait des cantiques dans le... Ils nous autorisaient... Non, je ne chante pas.
Et le passé bien, on arrive à la Mona, la sage-femme passait ce
lien
en boucle, c'était ma demande, et elle me faisait, je vais vous montrer le lit d'ailleurs, et elle respectait ça, et voilà, elle avait compris, on doit l'accélérer.
Voilà, donc on est passé par des moments difficiles, mais on est aussi passé donc par des moments de bénédiction. Et c'est vrai que voilà, le Seigneur nous accompagne chaque jour. Et on a expérimenté cette fois-ci vraiment sa main sur notre vie, sur la vie de nos enfants. Et on pourra en raconter d'autres. Mais c'est vrai que quand on est dans la difficulté, quand on est dans l'épreuve comme ça, ben, il est bon de savoir que le Seigneur est avec nous. Et c'est ce que vraiment j'ai retenu de cet épisode. C'est que le Seigneur, il est là, il est bon, il est présent et il nous fortifie chaque jour.
Bonsoir à tous, tout d'abord. Quand Pekila a rendu son témoignage, j'y pensais au mien. Il y a 3-4 ans, c'est en lien avec le travail également. Alors, je ne suis pas stagiaire, je ne suis pas étudiante, hein, je travaille depuis 30 ans maintenant. Mais il y a 3-4 ans, il m'est arrivé à une petite expérience au niveau de mon travail. J'ai répondu à une offre d'emploi au sein de mon entreprise, une grande entreprise de l'aéronautique à Toulouse. J'y ai répondu parce que j'avais une possibilité de monter en compétence, en statut, de gagner un peu plus, etc. Donc j'ai répondu à cette offre d'emploi. Il faut passer des entretiens malgré tout, hein, c'est pas donné dès qu'on y répond. Donc j'y ai répondu, je n'avais pas la paix non plus en répondant à cette offre d'emploi. J'avoue que ce que j'avais regardé, c'était la progression statutaire, voilà, pourquoi pas. Mais lors de l'immersion dans cette équipe, j'avais senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je me suis dit, bon, de toutes les façons, peut-être que les entretiens ne passeront pas et ça ne marchera pas. Premier entretien avec le manager technique, ça passe, donc je suis prise. Pareil, hein, je veux honorer, je ne veux pas les laisser tomber, mais j'avais la possibilité de laisser tomber. Deuxième entretien avec la RH, ça passe aussi. Et je finis par intégrer cette équipe. Hein. On m'offre une formation pour intégrer l'équipe, une formation qui coûte très très cher à l'entreprise. Et je tiens à le souligner parce que justement, lorsqu'on on vous paye des stages, il faut quand même honorer le poste minimum 2-3 ans. Voilà, on ne peut pas faire des formations qui coûtent cher et puis dire, bon, au bout de 5 mois, ça ne me plaît plus, je quitte le poste. Donc c'est minimum 2-3 ans après une formation. J'intègre l'équipe, ça se passe hyper mal, je ne suis pas bien, c'est une équipe qui est en souffrance, voilà, ça ne dépend pas de moi, c'est malgré moi. Une équipe qui est en très très grande souffrance, il y a beaucoup de problèmes d'éthique et compliance dans l'équipe, il y a des problèmes de gestion ressources humaines par le chef d'équipe, beaucoup d'injustices, de gestion, de favoritisme, etc. Donc j'arrive dans une équipe très très en souffrance. Je le vis très mal, je ne veux pas le montrer et je crois que je vais m'en sortir. Je dis « Seigneur, tu me donneras les outils pour m'en sortir ». Les semaines se passent, les mois se passent, je vais très 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 mal, mais je ne veux pas l'admettre. Seigneur, tu me donneras le voilà, tu répondras à mes prières, voilà, les genoux par terre, Seigneur, vraiment tu vas me sortir de là. La RH me convoque au bout de 4-5 mois parce qu'elle veut voir comment les nouveaux intégrés dans son département vont. Et là, je lui dis ouvertement, ça ne va pas, et je lui donne 2-3 mots, mais en restant assez réservée quand même sur les raisons. Et là, la RH me dit, je suis au courant qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe, je vais t'aider à retourner dans ton ancien poste, qui n'a pas été pourvu, en plus. Et en plus, j'aimais énormément ce que je faisais, j'étais dans le contrôle aérien au sein de mon entreprise, j'aimais énormément ce métier, bon, j'avais envie de changer, voir ce qui se passe ailleurs. Quand elle m'a proposé ça, je me suis dit, Marie-Jeanne, non mais allô quoi, c'est quoi ce délire? Il faut tenir un poste 3 ans minimum. Et là, au bout de 4 mois, elle me propose cela. Elle me dit par contre, je veux bien entendre par quelques mots simples les raisons, enfin ce qui se passe. Hein. Je dis, ouais, tu comprends, enfin, je ne peux pas te dire ça, enfin, je suis quand même encore dans l'équipe, c'est compliqué. dit non, mais c'est important pour moi de le savoir. J'ai entendu des choses, mais je veux que pour quelqu'un qui est 109 dans l'équipe, avoir les raisons réelles de ces mal-être. Donc je lui dis les quelques mots, les quelques trucs, elle fait ok, bon, c'est bon, ça correspond à tout ce que j'ai entendu. Mais enfin, je suis quand même mal, même si elle me raccompagne, elle fait tout, elle casse le dossier pour que je puisse repartir à mon ancien poste, c'est génial, mais en attendant, je suis encore dans l'équipe, quoi. Je me sens mal à cause de ça, c'est un peu comme de la délation, comme une semaine après, je tombe gravement malade. C'est là où j'étais hospitalisée pour une pneumopathie bilatérale avec choc septique. Donc, début de septicémie, etc. Quoi. Le truc vraiment, les médecins, enfin voilà, pronostic, hein, j'étais en réa les deux premiers jours, etc. etc. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais là sur le moment, mais après, enfin, Dieu m'a ouvert les yeux sur tout. Non seulement la RH. A vu à quel point peut-être j'étais en souffrance et vu la maladie que j'ai eue, elle a dit « Oh là là, j'accélère tout pour qu'elle ne revienne pas dans l'équipe. » Surtout après les aveux que je lui ai faits hein, au sujet de l'équipe, je me sentais en porte-à-faux avec eux. Non seulement elle a accéléré le processus, donc je n'ai jamais remis les pieds dans l'ancienne équipe après ma maladie. J'ai eu plusieurs mois de convalescence. En plus, voilà, au bout de 4 mois, j'ai pu retourner à mon poste antérieur. Et surprise, j'ai gardé le salaire que j'avais acquis en partant dans l'équipe qui me permettait d'avoir un statut plus élevé. Je pensais qu'on allait me remettre... Non, c'est comme ça dans l'entreprise. Quand tu acquiers telle compétence et tel salaire, tu redescends pas. Ok, bon. Enfin bref, tout ça pour dire que Dieu agit dans tous les domaines de notre vie. La maladie, l'état psychologique, notre travail. Il fait des choses miraculeuses. Je suis sortie de l'hôpital en une semaine alors que j'ai fait une septicémie, quoi. J'étais rétablie très rapidement. C'était juste pour marquer le coup, en fait. Dieu a fait tout ça pour marquer le coup et faire accélérer un processus qu'il connaissait déjà, quoi, en fait. Voilà. Donc Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est surprenant, Dieu fait des choses magnifiques. Voilà.
Bonsoir à tous. Alors déjà, désolée pour ma voix, j'ai complètement perdu ma voix. Donc supportez-moi un petit peu, s'il vous plaît. Alors, je vais vous parler de mon parcours scolaire, en tout cas, du coup, de l'alternance dans laquelle je suis actuellement. Donc, en fait, j'ai d'abord commencé par faire de la psycho, et je savais déjà dans mon cœur que ça n'allait pas être ça, mon domaine. Donc, du coup, je n'ai pas continué, j'ai fait 2 années de licence, enfin, de première année de psycho, et du coup, après, je n'ai pas continué. Et je me suis retrouvée en train de me réorienter. Je ne savais vraiment pas quoi faire, en fait. Bon, après, je vous passe les détails. Mais après, j'ai eu dans mon cœur de devenir responsable formation. Alors, je ne sais pas si c'est toujours ce que je veux faire. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis orientée dans les ressources humaines. Donc, j'ai cherché de l'alternance, etc. Parce que c'était le mieux hein, de faire de l'alternance. Et donc là encore, je passe des détails. Mais du coup, j'ai fait toutes mes années de ressources humaines en alternance. Et l'année dernière, c'était très, très compliqué de trouver une alternance parce que quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience et qu'on dit à une entreprise « Coucou, prenez-moi, je veux apprendre », c'était difficile. Et on était aussi dans une période où il y avait le Covid, donc là aussi, c'était compliqué. Mais le Seigneur a fait grâce, j'ai pu trouver une alternance. Donc, j'ai fait mon bac plus 3, donc mon bachelor en alternance de ressources humaines, et j'ai eu mon alternance, mon bachelor, du coup, c'est arrivé récemment. Et puis il a fallu que je lance les recherches, du coup, pour l'année de M1, dans l'année où je suis actuellement. Et là, ça a été beaucoup plus facile, parce que j'avais déjà 3 années d'expérience dans mon CV, quoi. Et là, ça a été très, très facile. Donc, je postulais pour cette année de M1, Et toutes les entreprises, elles m'appelaient. Elles m'appelaient pour que je puisse être embauchée. Et donc, je suis quelqu'un de très loyal. Donc, premier arrivé, premier servi. Quoi. donc, il y a une entreprise, notamment, c'était un centre de formation, qui voulait absolument m'avoir. Alors, il m'avait dit qu'il voulait quelqu'un pour tout de suite, mais comme mon profil les intéressait énormément, qu'ils attendaient septembre pour m'embaucher, qu'il n'y avait pas de souci. Donc vraiment, ils ont fait des choses correctement. Donc on était au mois de février, Et c'était du coup pour l'année de septembre, l'année de M1, donc en septembre. Donc il y a à peu près 6 mois qui séparent le moment où j'ai accepté et la nouvelle alternance qui devait commencer. Alors j'ai dit oui, mais d'entrée de jeu, je n'avais pas la paix dans mon cœur. J'avais dit oui, mais cette entreprise, je n'avais pas la paix. Mais comme j'avais dit oui et que je sais que j'aime honorer mes engagements, alors je continuais le processus de recrutement. Il était lancé, donc j'avais décidé de continuer. Il faut savoir que pour une année d'alternance, l'année dernière et cette année, une entreprise qui embauche un apprenti touche 8000 euros d'aide. Donc c'était un vrai argument aussi pour que les entreprises puissent nous embaucher. Et donc il fallait qu'on signe le contrat avant juin. Donc avant juin de cette année. Et donc voilà, j'avais trouvé mon alternance en février, alors que tout, il y avait des camarades qui vraiment galéraient, hein, qui avaient trouvé une alternance. Moi j'avais trouvé, et gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais du coup j'avais pas cette paix quand même. J'étais pas en paix. Et en plus j'ai dit non à beaucoup d'entreprises et beaucoup de grandes entreprises. Et ça a confirmé en fait cette absence de paix en fait. Ça a vraiment confirmé, parce qu'il y a vraiment plein d'entreprises qui m'ont appelé et je devais dire non alors que je n'étais pas en paix par rapport à l'entreprise à laquelle j'avais dit oui. Et un jour, je reçois un coup de fil, je suis dans mon ancien travail et je reçois un coup de fil de celle qui est censée être ma nouvelle collègue en fait. Et elle me dit « Pekila, on vous veut toujours ». Et je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi elle m'appelle en disant ça. Et là, elle essaie de m'expliquer qu'elle a eu un désaccord avec ma conseillère formation dans mon école de commerce et que du coup, elles se sont pris la tête et que voilà, mais elle me voulait toujours. Et là, ça a confirmé cette absence de paix. Qu'est-ce qui se passe? Là, je reçois un SMS de ma conseillère formation qui me disait « Pekila, appelle-moi dès que tu peux ». Donc là, je sors de mon travail et j'appelle ma conseillère. Elle me dit, vraiment, elle me démonte l'entreprise. Elle me dit, alors, ils ont pas voulu payer le reste à charge. Bon, je sais pas les détails, mais en gros, pour pas beaucoup d'argent, ils essayaient de négocier mon année. Alors qu'ils avaient déjà eu 1000 euros d'aide, hein, mais ils essayaient de négocier mon année. Donc là, voilà, j'ai dit d'accord et j'ai commencé à prier, à réfléchir. Mais je savais déjà au fond de mon cœur que c'était pas là que je devais aller, parce que si pour le peu de reste à charge qu'ils faisaient tout ce pataquès, quoi, et ben du coup mon salaire allait pas être non plus très généreux, quoi. Donc il y avait ça, et puis il y a aussi les relations dans l'entreprise, ça allait être compliqué parce que j'arrive d'entrée et ben j'aurais été celle qui aurait pas causé les problèmes, mais voilà, ça aurait été compliqué relationnellement parlant aussi. Et là, il y a la chef d'entreprise qui m'appelle quand j'arrive chez moi, et elle sent que en fait je suis pas à l'aise. Elle sent vraiment que je suis mal à l'aise, et je lui ai expliqué pourquoi j'étais mal à l'aise, que voilà, c'est passé comme ça, et on n'a même pas encore signé le contrat, que ça se passe déjà mal, que moi ça me plaît pas trop. Et elle me dit cette phrase, elle me dit d'accord, et voilà, je tombe malade du Covid, donc ça c'est en fin mai, donc imaginez-vous, je dois signer mon contrat avant fin juin, et on est en fin mai, je tombe malade du Covid, donc là elle décide de me donner un autre rendez-vous pour discuter encore de l'incident, et elle me dit qu'elle a vraiment ressenti que j'étais pas à l'aise et qu'elle voulait s'assurer en fait de m'embaucher correctement, quoi. Là, je lui ai dit que je doutais. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et j'avais déjà pas cette paix depuis le début. J'avais continué quand même. Et j'avais décidé de, quelque part, pas obéir au Saint-Esprit. Parce que clairement, c'était le Saint-Esprit qui avait mis ça dans mon cœur. Et du coup, je lui ai dit, c'était un mardi, je lui ai dit, ben, s'il vous plaît, je vous donne ma réponse le vendredi. Il m'a fait, il n'y a pas de problème, etc. Donc, imaginez-vous, là, on est en juin, parce qu'on était passé en juin, donc il fallait signer le contrat vraiment. Et je lui dis le vendredi, alors j'ai prié, j'ai beaucoup prié. Et je savais en vrai, hein, ce que je devais faire. Donc, j'ai dit, OK, Saint-Esprit, je vais dire non, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai fait cet acte de foi, là, il y a eu cette nouvelle au gouvernement qui disait que l'aide exceptionnelle de 8000 euros allait être reconduite jusqu'en décembre. Donc, merci Seigneur, alléluia, je peux encore repostuler. Mais quand même, je vais dire non à une entreprise qui a entretenu une relation avec moi depuis quand même 4 mois. Quoi. Donc là, j'appelle et je lui dis que je suis désolée, mais je ne pense pas être la personne qu'il faut pour l'entreprise. Donc voilà, je préfère ne pas débuter le contrat avec eux. Là, elle me dit qu'elle comprend, mais qu'elle avait déjà senti de toute façon que j'allais dire non, donc il n'y a pas de souci. Alors là, je me retrouve du coup sur le marché du travail en juin, alors qu'il y a 2 mois de vacances scolaires, et en septembre, je dois commencer mon alternance. Sincèrement, je n'avais pas du tout crainte, je n'étais pas du tout stressée, j'avais la paix, parce que je savais que le choix que j'avais fait était inspiré de Dieu. Donc j'avais vraiment la paix. Et là, j'ai recommencé à postuler normalement. Et là encore, ben, à ma grande surprise, parce que vraiment on est arrivé aux grandes vacances, et ben, il y a plein d'entreprises encore qui m'ont appelé, pareil. Et là, je ne voulais pas tomber dans le même piège. Vraiment, à chaque fois que je postulais et qu'une entreprise me disait oui, je consultais le Saint-Esprit. Seigneur, je fais quoi? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là ma place? Et il y a eu ce fameux entretien où, alors toute ma jeune carrière d'assistante de ressources humaines, j'ai toujours travaillé dans la formation. Et j'ai pas vraiment été assistante ressources humaines, en tout cas généraliste. Et il y a cette entreprise qui a vu mon CV et qui m'a contactée, qui m'a proposé un entretien par visioconférence. Et mais par contre le poste était pour un poste RH généraliste, sauf que j'en ai jamais fait. Alors moi je me présente à l'entretien, mais vraiment sans conviction. Je dis, bon, je vais me présenter pour faire joli. Ils m'ont proposé un entretien. Voilà. Donc, je reste moi-même pour le coup. Je ne fais pas de faux semblants, même si je n'en fais pas d'habitude. Mais vous savez, on se présente toujours d'une manière en entretien. Là, vraiment, je suis moi-même à 100% et c'est perdu d'avance. Donc, voilà. Donc, je fais l'entretien. Et là, la DRH, elle me dit, et si on vous disait oui? Alors moi, je tombe des nues comme ça, je fais, je serais ravie, mais d'accord, mais ok. Et elle me fait, bon, ben, on vous dit oui alors. Je fais, ah d'accord, mais pourquoi? Alors je lui ai vraiment posé la question. Je lui ai dit, mais d'accord, vous me prenez, c'est super cool et je suis ravie, mais pourquoi? Parce que vraiment, j'étais très étonnée. Pour moi, je ne correspondais pas au profil, alors pourquoi elle me prenait? Je sais que c'est Dieu maintenant, mais elle m'a dit, vous avez dit ça, nous on veut ça, vous voulez ça, nous on veut ça, etc. Et je me suis dit, ah quand même, elle m'a bien écoutée quand même. Et le feeling était vraiment bien passé. Alors là encore, je ne voulais pas donner ma réponse de suite, parce que j'avais eu cette expérience auparavant, je ne veux pas faire la même erreur deux fois. Donc là, après cet entretien, je prie encore. Et j'avais eu un autre entretien en parallèle dans une autre entreprise. Et j'hésitais entre les deux, mais je savais que c'était celle-là que je devais prendre parce que ça allait aussi servir pour l'œuvre de Dieu plus tard. Donc, j'ai dit oui à cette entreprise et elle me paye très bien. Voilà. Donc, merci Seigneur parce que j'ai écouté le Saint-Esprit et je suis dans une entreprise qui m'accueille très bien, qui est très gentille avec moi et qui m'aide à apprendre.
C'est un petit témoignage, mais qui mérite d'être proclamé. J'ai eu ma fille maintenant. Ma fille qui venait ici, Esther, l'est maintenant à Paris. Alors, il y a une semaine, un lundi, le soir, je l'appelle. Il parlait, il n'était pas bien. J'ai dit, mais maman, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. J'ai dit, Seigneur, maintenant je ne veux pas me transformer en oiseau pour être à côté de ma fille. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, mais va à l'hôpital, appelle le SOS médecin pour qu'on vienne te chercher parce que, comme je suis du corps médical, j'ai senti qu'il allait très mal. Non, il fait froid. J'irai demain matin. J'ai dit, mon Dieu. Heureusement qu'il y avait à côté Marietta. J'ai dit, Marietta, s'il te plaît, appelle les amis. Ils sont venus. On l'a mené à l'hôpital Georges Pompidou, qui connaissent Paris, moi je ne connais même pas l'hôpital. Et il arrive là-bas, il était pris. J'ai dit, à Paris, il y a souvent un flux de malades, on va le négliger. Et alors qu'ici, quand il était chez moi, directement pour à Pierpont, à Serge Rangueil, on nous accueille. J'ai dit, Seigneur, il y a des négligés à l'hôpital, il n'y a pas de personnel. Comme je commence à trembler. Et puis, on l'a quand même bien accueilli. Je demande, quel est le diagnostic? Infarctus du myocarde. Comme je connais la médecine, j'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à trembler. Alors, le Saint-Esprit me parlait, dit, prie. J'ai commencé à prier. Pas des formules, mais cœur à cœur avec Jésus. En lui rappelant sa parole. Après, j'ai dit, Seigneur, je n'ai plus de goût. J'ai pris la compilation de mes louanges dans YouTube. J'ai loué Dieu. J'ai loué Dieu. Laisse-toi s'en aller. Laisse-toi s'envoler dans les cieux. J'ai commencé à louer Dieu jusqu'à 4 du matin. Je me suis endormie en paix. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça change mes émotions alors que tu es là, alors que tu es mon assurance, alors que tu es le Jéhovah Rapha. Jusqu'ici, tu l'as toujours secouru. Plusieurs fois, il a raté la mort. Tu vas le secourir. Jusqu'ici, tu l'as toujours secouru. J'ai dormi comme un bébé jusqu'au petit matin. Son ami m'appelle. Maman, ça va? Elle est sortie de l'hôpital. On l'a prescrit des médicaments et puis on a fait beaucoup d'examens, tout ça, tout ça. Elle est sortie de l'hôpital. Mais l'infarctus était toujours là. Il fallait qu'il se repose. Il s'est dit, j'ai dit, Seigneur, elle est sortie de l'hôpital. Le reste, tu t'en occupes. Comment la prière donne la paix? Comment les louanges donnent la paix? Que Dieu soit loué.
Parce que j'aime bien parler, j'avoue. Non. Alors, mon témoignage ce soir, ce serait sur, sur ma vie, mais je vais tout mettre ensemble, mon foyer, mes enfants. Alors, moi, j'ai vécu dans un foyer où, quand j'ai connu mon mari, c'était un coup le pied dans le Seigneur et dans le monde. C'était entre. Donc, j'ai dû élever mes enfants entre, on va dire. Je les emmenais au culte, mais quand ils retournaient, c'était la vie dans le monde. Comment on va dire ça? C'était compliqué pour moi de vraiment les attirer vraiment à tout ce qui touche au Seigneur, tout ce qui. Et pourtant, ils venaient au club, ils ont tout fait. Mon témoignage, ça se rapporte de pourquoi le Seigneur a agi dans la vie de mon mari. C'est parce que un jour, on a dû tout quitter et laisser partir de la Nouvelle-Calédonie. Quand on est parti de la Nouvelle-Calédonie, c'était un pincement au cœur pour moi. Mon mari est arrivé un jour et m'a dit, j'ai démissionné, on va partir. J'ai dit, pardon. On part. J'ai dit, on part où? Et il me dit, on part en France. Et j'ai dit, non. En fait, c'est parce que je me disais toujours que dans le Seigneur, il faut qu'un couple se communique. Sauf que moi, j'étais dans le Seigneur et pas lui. Et c'était compliqué pour moi d'accomplir la parole en disant qu'il fallait cette communication. Parce que j'avais pas cette communication. Et mes enfants, ils étaient entre deux mondes. Excusez-moi. Je suis désolée. La seule chose que le Seigneur m'a fait comprendre, c'était la foi, l'amour et l'espérance. Je ne comprenais pas ces choses. Je ne comprenais pas pourquoi il me faisait rappeler ça. Et quand on était en Nouvelle-Calédonie, ma maman me disait, à chaque fois que ton mari dit quelque chose, fais silence, je dis, c'est pas possible pour moi, c'est pas pour moi le silence, parce que j'arrive pas à faire le silence. Quand il me dit quelque chose, je vais toujours dire, quand je regarde l'air, il parle plus, il se met dans, je disais, et maman savait, voyait ce que je faisais. Elle dit, si tu veux gagner la vie de ton mari au Seigneur, apprends à faire le silence. Et moi j'ai dit, Seigneur, aide-moi à faire le silence. Et le jour qu'il m'a annoncé qu'il fallait qu'on quitte tout et pourtant vivait aisément, Et quand je dis aisément, j'avais mon travail, lui son travail. Et tout laisser, c'était, pour moi, c'était le chaos total. Parce que je me dis, je vais laisser mon travail et toi, un salaire où tu es assez payé. J'avais ma voiture, toi ta voiture. Non, c'est pas possible, on laisse pas tout comme ça. Mais j'avais pas compris que le Seigneur commençait à faire une œuvre dans la vie de mon mari. Et la seule chose qui m'a frappée, c'est quand j'étais pas d'accord, la seule chose qui m'a sortie et que j'ai compris aussi par la suite quand maman me disait de faire le silence, c'est parce que je lui ai dit, moi, je lui ai seulement, et le Seigneur me mettait à cœur de lui dire, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Et je l'ai retourné, je dis, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Et il m'a dit, une parole qu'il avait retenue, qu'il est allé à l'église, c'est quand il a parlé sur la vie d'Abraham. Il est parti, il a pris toute sa famille, il est parti. Sans réfléchir, il est parti. Mais le Seigneur l'avait guidé, mais il ne sait pas où. Mais lui commençait à boire ses paroles, il ne connaissait pas, il ne savait pas ce que c'était. Et là, c'était comme si c'était un boum, et que là, je voyais maman quand elle est en face de moi, elle dit, apprends à faire le silence. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse le silence. Et ce que lui a décidé, ben, je vais le suivre. La seule chose, quand elle m'a laissée à l'aéroport, elle m'a dit, toi et ton mari, vous faites qu'un. Tu partiras, mais n'oublie pas que c'est toi et lui. C'est pas toi dans ton coin et lui tout seul. Et j'avais du mal parce que je partais, je laissais mes parents et je laissais tout. Mais je souffrais. Je dis, comment tu peux me dire encore, je fais qu'un, c'est difficile, je laisse ma femme. Elle dit, je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Et quand je suis arrivée ici, j'ai compris la pensée que maman a mise sur mon cœur. Vous faites qu'un. Le jour où on devait venir à Toulouse, il m'a dit, allez, nous allons partir, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien, nous devons venir et on ne sait pas on va dormir où. J'ai dit, non, mais c'est complètement dingue. Tu vas me rendre folle. S'il te plaît, au secours, là. Il faut que ça s'arrête. Il me dit, mais il faut que j'aille parce que moi, je travaille, je commence. Oui, toi, toujours. Et nous, on est où, là, dedans tout ça? Et c'est là que ça m'est tout revenu. Quand ma maman me disait, fais silence et vous êtes qu'un. Et quand j'ai compris ça, le Seigneur m'a seulement mis dans le cœur, va dans la chambre, enferme-toi dans ta chambre. Et je suis partie pleurer, parce qu'il fallait que je crie pour dire, c'est quoi encore ce délire, c'est pas possible, il faut que je monte dans ma voiture, je vais dormir où, puis j'ai mes enfants. Et quand je suis sur la route en venant de Toulouse, je suis sortie, je dis, bon, ok, allez, puisque tu veux qu'on y va, allez, c'est pas grave, on m'entend pas, et je réfléchissais plus. Et la seule pensée que Dieu a mis dans mon cœur quand je priais, quand tu arriveras là-bas, tu trouveras une certaine Sarah. Mais c'était la seule chose qui m'avait posé. Elle dit, tu vois, Sarah, la femme d'Abraham, elle a suivi Abraham sans peut-être poser de questions, peut-être elle n'est pas d'accord, je ne sais pas les circonstances, mais peut-être qu'elle n'était pas d'accord, elle était comme toi, mais elle a quand même suivi son mari. Je dis, Seigneur, au secours. Et je suis partie. Et quand je suis venue ici à Toulouse, en allant sur la route, en roulant, en arrivant bientôt au péage, j'ai ma fille qui nous appelle, elle me dit, maman, j'ai pu vous trouver une maison. Moi, j'ai dit à mon mari, ça y est, on a une maison, on va dormir quelque part. Il me dit, ah bon, où? Mais chez des personnes qui ont bien voulu nous ouvrir leur maison. Et quand on est arrivé, et les personnes habitaient sur Peurpont, et quand on est arrivé à Peurpont, voilà, chez les personnes, et ils nous attendaient, on est arrivé à 4 heures du matin, j'ai dit, j'avais trop la honte, j'ai dit, Seigneur, pardon, mais je les ai fait attendre jusqu'à 4 heures du matin. Mais ça se fait pas, Seigneur, vraiment. Mais en fait, je savais pas qu'ils avaient la paix quand ils nous attendaient. Et quand on est arrivé, et la dame et le monsieur, ils disaient, voilà, c'est nous. Puis moi, je fais, oh, ils sont trop bien, super. En plus, ils sont là en train de nous accueillir à 4 heures du matin, j'ai dit, c'est pas possible. Et du coup, voilà, comment le Seigneur a fait que il a mis la paix dans mon cœur et que je sais pourquoi mon mari fallait qu'il vienne là pour qu'elle soit baptisée. C'est parce que quand je suis arrivée devant la maison, on se présente. Moi, je suis Marie-Jeanne, bonjour Thémy et mes enfants. Et elle était à côté de du monsieur. Elle me suis dit, ah, mais moi, je m'appelle Chapaillé. Et voilà ma cousine. Ah, moi, je m'appelle Sarah. Et du coup, voilà, Sarah qui nous dit, j'ai tout préparé, les draps, les matins, j'ai Saint-Esprit, je vais rentrer dormir. C'est ce que j'ai dit, mais j'ai glorifié l'Éternel. Parce que quand j'ai suivi le plan de Dieu, j'ai appris à faire silence devant mon mari, que le Seigneur m'a dit que la femme soit soumise et qu'elle doit faire silence dans son cœur, même si c'est l'incompréhension, c'est l'injustice, c'est injuste. Mais j'ai pleuré devant l'Éternel. Et pour le jour d'aujourd'hui, eh ben, je suis la femme la plus heureuse parce que mon mari est sauvé. Amen. Soyez bénis.